La Monnaie, le livre du peuple, section 6. Tel est le droit selon son essence. Il est le principe conservateur de l'être individuel, sa loi propre. On peut le violer, mais il réclame éternellement contre sa violation. Et dans l'ensemble des choses, il est indestructible, parce que tout périrait s'il était détruit. La création entière rentrerait dans le néant. Mais l'homme ne vit pas seul. Dieu ne l'a point destiné à cette existence solitaire. Il ne se conserve et ne se développe selon sa nature que dans la société. Par l'union avec ses semblables, et l'union des individus forme les peuples, et l'union des peuples forme le genre humain, ou la famille universelle que nous devons travailler sans cesse à constituer, pour que la somme des maux dont l'égoïsme est la source impure diminue aussi sans cesse, et que celle des biens répandus par la Providence le long de notre route ici-bas augmente en même proportion. Voyez sur les bords de la mer un arbre isolé, sans force contre les vents qui courbent sa tige, abaisse et brise ses branches à mesure qu'elles croissent, il se dessèche et meurt bientôt. Ainsi en est-il de l'homme sur la terre. Il ne suffit pas que l'eau des nuées humecte ses racines. Il faut encore qu'il trouve un abri et que ses rameaux, en s'élevant, s'appuient sur d'autres rameaux. Quelle que soit l'origine d'une association humaine, chacun de ses membres y apporte avec soi son droit tel que nous l'avons expliqué et l'y conserve immuablement. Car le droit, je le répète, ne peut ni se perdre, ni s'aliéner. Et l'ensemble de ces droits égaux, et les mêmes pour tous, forment le droit du peuple, le droit social. Car le peuple, c'est la société qui ne subsiste que par lui et n'existerait pas un seul instant sans lui. Le peuple a donc, comme l'individu, le droit de vivre, le droit de se conserver et de se développer librement. Toute atteinte portée à ce droit est une violation des lois du Créateur. Et plus cette violation est profonde, plus les maux qu'elle engendre sont profonds aussi. Et maintenant, ô peuple, dis-moi ce qu'est devenu ton droit en ce monde. Dis-moi ce que fut jadis, ce qu'est encore ta pauvre vie si chargée de labeur. Esclave autrefois, puis serf durant de longs âges, toujours opprimé, exploité toujours, semblable au pré qu'on fauche au printemps, et qu'on livre encore à une dent avide en automne, quel fruit as-tu retiré de ce qu'on a par moquerie appelé ton affranchissement? Pourquoi te traînes-tu avec tant de douleur sur cette terre donnée en héritage à tous les hommes indistinctement, et que tous ils devraient parcourir en dominateur? Pourquoi, au milieu des productions qu'elle offre de soi-même et que multiplie ton travail, gémis-tu si souvent dans l'angoisse de la faim? Pourquoi n'as-tu d'abri ni contre les vents glacés de l'hiver, ni contre les feux du soleil dans la saison brûlante? Pourquoi manques-tu de vêtements pour recouvrir tes membres exténués et d'un linceul pour les envelopper lorsqu'on les jette dans la fosse commune où ils se reposent pour la première fois? Lorsque la pluie descend des nuées, elle rafraîchit et désaltère la plus humble plante cachée en un coin de la vallée, comme l'arbre qui, sur la montagne, étend au loin ses fortes branches et dresse sa tête altière. Pourquoi, inquiet du jour présent, inquiet du lendemain, les joies de la famille se changent-elles pour toi en amers soucis? Pourquoi, à la table où le commun père veut que s'asseyent tous ses enfants, ta coupe ne se remplit-elle que d'un vin troublé? Pourquoi, absorbé dès le premier âge dans les travaux du corps, ne recueilles-tu qu'avec tant de peine quelques faibles rayons de la lumière dont se sert l'esprit? Pourquoi l'astre de la science ne se lève-t-il point sur l'horizon du monde ténébreux où l'on t'a relégué? Notre vie sur la terre ne saurait sans doute être exempte de douleur. Le besoin, la souffrance même, en excitant notre activité, sont une condition du progrès commun. Sans doute encore égaux en droit, les hommes ne possèdent point de facultés égales, ne naissent pas tous en des circonstances également favorables à leur développement. Et cette inégalité d'où résulte, avec des inclinations différentes, des aptitudes particulières aux diverses fonctions qu'implique l'existence de la société, contribue au bien général. Mais ce bien, tous doivent y participer. Et il n'est même le bien général que parce qu'il est le bien du plus grand nombre, le bien du peuple, et non de quelques individus ou de quelques classes seulement. Qu'un homme, en effet, regorgeait de richesses, tous les autres restant pauvres, appellerait-on sa richesse la richesse générale? Or, presque partout, la jouissance des biens naturellement destinés à tous a été le partage exclusif de quelques-uns, qui, tenant le peuple sous leur sujétion et oubliant à son égard les sentiments que les frères doivent aux frères, l'ont traité comme des animaux, que le jour on attelle à la charrue et à qui on jette le soir une poignée de paille à l'étable. Et ils ont pu le traiter ainsi, ils ont pu le maintenir dans la servitude et l'ignorance et la misère et l'abaissement, parce que, maîtres de la société et l'organisant à leur gré, dans l'unique vue de leur intérêt propre, ils ont ôté au peuple les moyens de défendre les siens, en le dépouillant de ses droits politiques, en lui interdisant toute espèce de concours dans la confection des lois, dans la gestion des affaires communes, et en le réduisant à une simple obéissance passive. Des maux qui sont dans le monde, une grande partie vient de là, et point de soulagement à y espérer, aussi longtemps que subsistera cette inique violation de l'égalité naturelle.